Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM et aujourd'hui nous recevons Arnaud Groff. Et ensemble, on va discuter innovation. Alors Arnaud Groff, il s'est fait une solide réputation dans le domaine de l'innovation et de la créativité. Il a été chercheur à l'École nationale supérieure des arts et métiers en management de l'innovation et de la créativité. Il a par ailleurs dirigé le master spécialisé management de l'innovation technologique à la Toulouse Business School. Et puis après 2 ans de tour du monde pour analyser les pratiques d'innovation, il a appliqué ses préconisations scientifiques et techniques en créant Innovative Community. C'est une start-up qui propose une plateforme numérique de co-innovation et d'intrapreneuriat. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Comment est-ce qu'on devient un expert de l'innovation ?
Eh bien, écoutez, je pense que ça prend forme très très petit, c'est-à-dire avec du recul, je me suis rendu compte que j'ai eu la chance de faire l'école Freinet, par hasard, puisque c'était l'école en bas de chez moi, c'est l'école des pourquoi. Et en se posant la question du pourquoi, petit à petit, je me suis posé la question de pourquoi on aimait des produits, pourquoi on aimait des objets, pourquoi ces objets étaient là, comment ils étaient créés. Et petit à petit, je me suis dirigé vers des métiers d'ingénierie pour concevoir des objets. Puis après, je suis remonté plus en amont, pourquoi on aimait ces objets, comment on les concevait, et pour en venir à l'innovation, cette passion de la création. Et le deuxième aspect, c'est d'être tombé dans la recherche, d'avoir eu l'opportunité de faire une thèse de doctorat. Ça m'a permis de prendre conscience qu'on était acteur du monde dans lequel on vit, qu'on pouvait proposer des choses, challenger des choses avec d'autres chercheurs du monde et qu'on pouvait créer le monde de demain. Alors, vous vous rendez compte, l'innovation plus la recherche, ces deux éléments-là m'ont permis d'aller beaucoup plus loin sur cette thématique et de faire de l'innovation plus qu'un métier, une vraie passion en fait.
Alors, je le disais en introduction, tu as fait un tour du monde, 2 ans de tour du monde, et puis tu es revenu avec une vision élargie du domaine de l'innovation. Qu'est-ce que tu as appris au cours de ce tour du monde ?
Ben, écoutez, de toute façon, ce tour du monde, il a commencé par un tour de France. Hein. C'était au Centre des jeunes dirigeants. J'ai eu la chance d'avoir une mission nationale autour de l'innovation, de me rendre compte des réalités de l'innovation dans des TPE ou des PME. Donc ça, c'était très intéressant pour challenger toutes ces méthodologies. Puis après, avec le ministère de la Recherche, on a pu, l'IHEST notamment, l'Institut des hautes études pour les sciences et la technologie, eu l'opportunité d'aller observer l'innovation ailleurs. Donc c'est très loin, hein, à Chicago, au Canada, à Montréal, voir un petit peu comment ça se passe, mais aussi très près de chez nous, en Belgique par exemple, où on voit leur manière de coller les centres de recherche avec les réalités économiques, avec la création de spin-off, des écosystèmes d'innovation très vertueux. Et en fait, je suis revenu de ce tour du monde, hein, puis après on allait en Asie, j'ai oublié de le préciser, mais je suis revenu de ce tour du monde avec une vision beaucoup plus élargie de l'innovation. J'ai pris conscience que l'innovation, c'était bien sûr la capacité à produire des résultats, parfois disruptifs, mais pas nécessairement. Déjà, c'est le premier point différenciant avec la culture française. On met en avant systématiquement la disruption, là où dans d'autres pays, notamment les États-Unis, on se satisfait de l'innovation incrémentale, la petite innovation qui répond à l'objectif de départ. Ensuite, je me suis rendu compte que l'innovation, elle avait une autre dimension qu'on avait complètement négligée. On a pensé à tort qu'en cherchant des produits innovants, on allait de temps en temps trouver. Et dans ce chemin, dans cette aventure pour trouver ce produit innovant, on allait y prendre du plaisir, découvrir des choses, que le chemin allait lui-même être formateur. Or, en faisant ce tour du monde, je me suis rendu compte que pour mettre en place une culture d'innovation ou pour la manager, il ne fallait pas attendre que le chemin lui-même se dessine naturellement pour être source d'innovation. Il fallait penser aussi le chemin. Il fallait créer les conditions d'un chemin qui favorise le développement du potentiel innovant de chacun d'entre nous. Et si j'avais une analogie à faire, c'est si vous deviez aller à Marseille depuis Lyon, puisqu'on est à Lyon aujourd'hui, de Lyon à Marseille, le réflexe serait de prendre l'autoroute. D'accord ? Penser l'innovation, c'est justement créer les conditions qui nous empêchent de prendre l'autoroute, qui nous obligent de prendre des nationales, des départementales, tomber sur un petit restaurant non identifié dans les guides, tomber sur des personnes, voire même de changer d'objectif, de ne pas finir à Marseille, mais à Nice ou je ne sais où, un peu plus loin en Italie. Bref, c'est de créer les conditions de l'émergence de l'innovation. Et on a trop souvent pensé l'innovation comme un moyen d'obtenir un résultat, mais pas assez comme un chemin formateur qui permet justement de s'épanouir et de se développer.
Alors, qu'est-ce que c'est, Arnaud, une entreprise innovante ? On entend beaucoup ça, entreprise innovante. Qu'est-ce que c'est exactement une entreprise innovante ?
Alors, j'ai un petit peu abordé cette thématique, mais l'entreprise innovante, ça peut être l'entreprise qui est en capacité de générer des innovations vis-à-vis du monde extérieur, produits, services. Mais l'entreprise innovante, ça peut être aussi l'entreprise qui est innovante dans son système de fonctionnement, son organisation, ses processus, etc. Enfin, l'approche un peu innovante qu'on apporte, justement, c'est aussi une entreprise innovante, elle l'est parce que son capital humain est hyper résilient. En fait, si j'avais fait une analogie, encore une fois, avec la nature, la capacité d'innovation d'un système vivant, c'est sa capacité de survie et d'adaptation. Donc, une entreprise innovante, c'est une entreprise qui est en capacité de s'adapter et de survivre. Pour s'adapter et survivre, il faut être résistant, donc la coque extérieure, comme la coque de la noix, et résilient, comme l'intérieur d'une fourmilière. Hein, vous donnez un coup de pied dans une fourmilière, en 18 stimuli, les fourmis s'organisent et réparent la coque. Trop souvent, en misant l'innovation uniquement comme le résultat, la coque, on oublie de travailler la résilience, le capital humain. Ce qui fait que le jour où on a une brèche, on est challengé sur le marché, la brèche se casse et là, on a le capital humain qui perd ses moyens parce qu'elle n'a pas l'habitude d'être challengé, d'être résilient. Donc, une entreprise innovante, c'est aussi l'entreprise qui travaille son capital humain comme une capacité à être agile, engagée et réagir et s'adapter à tout moment.
Ouais. Alors, tu disais tout à l'heure que l'innovation, ce n'est pas qu'une histoire de disruption technologique. Quel est le lien entre la transformation numérique d'une entreprise et puis sa capacité d'innovation? Est-ce qu'il y a un lien si évident que ça? Comment ça marche?
Alors, sur la transformation numérique ou transformation digitale, je ne sais pas de quoi on va parler. Je réoriente la question si ça ne te dérange pas.
Pas de problème.
Sur la transformation digitale. Ce qui est très intéressant sur la transformation digitale et la capacité d'innovation d'une entreprise, quel est le lien entre les deux? C'est que c'est une transformation déjà. Donc, on a une modification. Et ça, c'est intéressant. Si on reprend Darwin, il y a trois manières d'évoluer et de s'adapter pour un système vivant. Évoluer, se transformer ou se métamorphoser. Souvent, les médias mettent en avant la disruption, la métamorphose. Or, il y a les deux autres stades, transformation et évolution, qui sont moins brutaux, on va dire, mais tout aussi intéressants. Et bien là, on est dans l'avènement de technologies, et notamment du digital, et notamment des data, tout ce qui peut amener un traitement des data derrière, on a une transformation qui s'opère. On a tort de croire que cette transformation, elle est essentiellement liée à la numérisation des choses. Elle est fondamentalement liée plutôt à l'état d'esprit. Et on accompagne, et notamment je tiens aussi à saluer un programme dans lequel je ne suis que partie prenante extérieure, mais que je trouve formidable, qui est le programme de transformation digitale chez Thales, groupe Thales, qui a une maturité que j'ai trouvée formidable. Plutôt que de on est dans une boîte très technologique, on va dire, hein, d'accord ? Mais plutôt que de prendre la transformation digitale comme un axe de transformation numérique, ils ont très rapidement compris que c'était un problème de mindset, d'état d'esprit. Et aujourd'hui, ils travaillent beaucoup sur la transformation de l'état d'esprit pour amener la culture digitale. C'est quoi ? C'est l'envie de collaborer. Deuxièmement, c'est justement le travail collaboratif. Troisièmement, le droit à l'erreur. Quatrièmement, le test and learn. Cinquièmement, enfin, ils ont défini 6 piliers de changement culturel qui nous challengent dans notre manière de voir notre implication dans l'entreprise. Donc en fait, la transformation digitale, elle amène à être innovante dans la manière dont on va changer le rapport du salarié avec l'entreprise et lui dire, on va travailler autrement aujourd'hui. Les cycles sont de plus en plus courts, on ne peut pas maîtriser toute la complexité. Donc, par exemple, on va mettre en place des processus de test and learn plutôt que d'essayer de tout théoriser dans des bureaux et d'avoir juste du premier coup. C'est contraire, à ma génération, à ce que j'ai appris, on va dire. Hein. Donc, la transformation digitale amène une innovation dans l'état d'esprit, dans le rapport que l'on a à l'entreprise, sur l'agilité, notamment sur la collaboration. Comment, à un moment donné, on parle de corporate hacker. C'est-à-dire comment on peut avoir des salariés qui hackent un peu le système pour le rendre encore plus résistant et résilient. Donc, je ferai le lien entre les deux sur le fait que la transformation digitale sera une innovation dans le domaine du mindset, de l'état d'esprit, de la manière dont du rapport qu'auront les salariés avec l'entreprise. Et ça aura des impacts multiples sur les processus, sur les systèmes de management et indirectement, à la fin, sur les résultats. On voit dans des boîtes très technologiques mettre ce qu'on appelle le système de management Spotify. Donc, c'est un système de management où on supprime les repères classiques du chef de projet, ainsi de suite. On met en place des tribus, on met en place des clans, des choses comme ça qui font que ça tourne sous forme de communauté. Et là, c'est intéressant. C'est qu'on voit que l'entreprise est en train de redevenir un système de communauté et que les salariés ont besoin d'appartenir à une communauté pour pouvoir innover.
Ouais. Justement, quand on parle d'innovation, on entend souvent parler d'intelligence collective. Est-ce que c'est ça l'intelligence collective? Qu'est-ce que c'est exactement?
Bien, écoutez, sur l'intelligence collective, on est vraiment sur le nerf de la guerre. C'est-à-dire que pour travailler la résilience, donc la capacité du système vivant à s'auto-organiser pour se reconstruire, on va dire, pour faire simple, c'est l'intelligence collective qui en fera sa force parce qu'elle amènera l'agilité, l'engagement, la performance globale, on va dire. Et aujourd'hui, ce que l'on cherche dans nos entreprises, c'est retrouver justement, réactiver ce qu'on appelle les intelligences collectives holomidales, c'est-à-dire celles qui ne vont pas attendre que le système de management, le dirigeant, tire. c'est celui qui, une fois qu'on aura donné vie, aura besoin d'impulsion, de facilitation, mais va s'autosuffire et va, comment dire, vivre seul, se développer. Des communautés vont se créer, d'autres vont mourir, d'autres vont se recréer, ainsi de suite. Aujourd'hui, le digital a cette capacité-là, cette capacité d'amener les moyens à ce que les salariés puissent s'organiser entre eux sous forme de communauté, communauté de connaissances autour d'un projet qu'ils veulent mener ensemble. Et ça, cette intelligence collective va créer non seulement des processus d'engagement, puisque je vais avoir à suivre mes collègues, soit parce qu'on a le même centre d'intérêt, soit parce qu'on est sur le même projet. Ça va augmenter le capital connaissance, c'est-à-dire qu'on va apprendre des autres. C'est une logique de transformation du salarié, et ça, c'est de plus en plus demandé. C'est d'autant plus cohérent que la semaine dernière, l'OCDE a publié une stat qui dit qu'en 2025, une connaissance dans l'entreprise, hein, technique ou pas, aura une durée de vie de 12 mois. Donc, la clé pour nos boîtes, c'est d'apprendre à nos salariés à désapprendre pour réapprendre. L'intelligence collective amène cette capacité-là à apprendre collectivement et à progresser.
Et alors, quand on est un manager, comment on fait du coup pour engager ses collaborateurs dans une démarche d'innovation, hein, et notamment combattre les freins au changement? On sait que ça, c'est souvent une problématique, le frein au changement. C'est quoi les leviers? C'est quoi les astuces?
Alors, il y a plusieurs freins, hein, identifiés. Il y a déjà la notion de, je suis désolé du terme, de méculture de l'innovation. Beaucoup de nos collaborateurs ont une vision très orientée technologique de l'innovation. Donc, ils pensent qu'ils ne sont pas concernés. Donc, ils pensent que l'innovation, c'est ce qu'on appelle les processus d'innovation top-down, ceux qui sont décidés d'en haut vers le bas. Ça existe toujours. Dans une entreprise, on a peut-être des fois identifié une opportunité de dire qu'il faut être innovant là-dedans. Donc là, on va nommer des têtes pensantes qui vont avoir à travailler là-dessus. Ça, c'est ce qu'on connaît depuis 30, 40 ans. Et ça rassure tout le monde parce qu'on se dit, tiens, c'est l'affaire des autres. La survie de la boîte, ce n'est pas mon affaire. Il y a des experts qui s'en occupent. Je suis rassuré, ça me rassure. Non, il faut casser ça. Pour montrer que ça, il faut continuer à le faire. Mais qu'à côté de ça, il faut qu'on apprenne à encore mieux travailler entre nous, qu'on soit plus efficient dans notre boulot. Efficient, ça veut dire aussi être efficace financièrement, mais aussi par rapport au bien-être au travail, par exemple. Comment on peut améliorer nos conditions de travail? On est tous acteurs de ces éléments-là. Donc, il faut arriver à casser cette vision de l'innovation comme étant uniquement la capacité à développer un résultat technologique qui ira sur un marché. Non. L'innovation, ça peut être un nouveau process, une nouvelle manière de s'organiser, ça peut être un nouveau modèle économique, et on peut tous en être acteurs. Donc, c'est être en capacité d'expliquer qu'on peut tous être acteurs, que ce n'est pas nouveau, puisque ce qu'on appelle l'innovation participative, celle qui vise à faire participer tous les salariés, ça a 400 ans quand même. Hein, c'est né en Irlande, sur les chantiers navals, où un contremaître s'est rendu compte que chaque artisan avait des super idées pour améliorer son job, mais aussi améliorer celui des autres, voire même le chantier complet. Il fallait juste lui donner la parole. Donc là, j'ai le deuxième pilier, c'est qu'il faut arriver à leur donner les moyens de s'exprimer. Alors, qu'est-ce qui va freiner le fait qu'ils s'expriment ou pas? Ben, c'est de donner des premières orientations. Et là, on touche du doigt une des responsabilités fondamentales du dirigeant. Il y a ce qu'on appelle la notion de vraie innovation. C'est Anne Wiesmann, qui est un expert APM d'ailleurs, qui l'avait exprimé lors d'une de ses conférences. La vraie innovation, c'est l'innovation qui soutient les axes de progrès. D'accord. Donc, dans la société, c'est les utopies collectives, les croyances auxquelles le groupe social se met d'accord pour essayer de les soutenir. Eh bien, pour l'entreprise, c'est pareil. Ça veut dire que le dirigeant, s'il veut à un moment donné que les gens se lancent sur un chemin, il faut qu'il donne une première orientation. Donc, qu'il définisse le why, le pourquoi, la mission de sa boîte et derrière, tout de suite, la stratégie. À partir de là, il aura défini les axes de progrès. Et donc, les salariés pourront se positionner. Dans quelle direction on va? On va dans quel sens? En quoi je peux contribuer à aller dans ce sens-là? Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faudra créer les conditions pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc, dans des petites entreprises où on n'est pas très nombreux, ça peut passer par une simple boîte à idées. Mais ce qui est intéressant, si on fait exprimer les gens, il faut être en capacité de traiter derrière. Dans d'autres entreprises, on se sert du digital pour faire exprimer les choses. Le piège, ce serait de laisser juste exprimer des idées. Il faut très rapidement montrer aux salariés que c'est bien d'exprimer des idées pour améliorer le quotidien, un process ou autre, mais que ce serait quand même intéressant de prendre la responsabilité de transformer vos idées en solutions et de ne pas attendre des managers ou du patron de l'entreprise de le faire à votre place. Faites-le, vous allez voir, c'est une belle aventure. Ça va vous obliger à aller voir vos collègues parce que vous ne savez pas tout. Et c'est justement là que c'est intéressant. Vous allez aller voir vos collègues qui vont vous apprendre des choses pour transformer vos idées. Et enfin, le dernier point, si vous arrivez à mettre en place ce mouvement, pensez à valoriser. C'est-à-dire à la fin du process, à valoriser le résultat s'il y en a un, mais à minima, l'aventure collective qu'on a parcourue. Et ça, c'est très intéressant, parce que si vous prenez le dictionnaire Le Littré, dictionnaire du 19e siècle, et que vous prenez le mot innover, c'est un terme utilisé par les botanistes, entre autres. Et ça signifie faire bourgeonner une plante. Pour faire bourgeonner une plante, il faut 1. Un terreau fertile, 2. Donner envie, 3. Faire croître et bourgeonner, 4. Récolter. Et là, vous avez les 4 paramètres sur lesquels il faut agir. Créer le terreau fertile, la vision, la stratégie, le recrutement, le lieu, donner envie, donner le moyen de s'exprimer, soutenir, donc dire bah, allez-y, portez votre projet et valoriser.
Donc ça, c'est l'intelligence collective. Oui. Puis autre buzzword, hein, c'est l'open innovation.
Ah oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, l'open innovation ?
Alors, bah, comme son nom l'indique, c'est l'innovation qui est à l'extérieur. Mais ça, pareil, dans la nature, on le retrouve souvent. Hein. C'est d'aller puiser l'innovation aussi à l'extérieur du système vivant entreprise et de s'en inspirer. Alors, moi j'ai en tête un exemple. Enfin, pour moi, un des exemples d'entreprise la plus exemplaire dans ce domaine, ça a été Procter & Gamble qui... très rapidement, a même industrialisé l'open innovation. On a fait même un élément important en disant l'innovation, elle doit venir des utilisateurs, elle doit venir de nos fournisseurs, nos sous-traitants, nous, on ne va que réguler. Il y a d'ailleurs un terme qui existe en science, qui est le terme « innovation » avec un M, qui est la contraction du mot « imitation » et du mot « innovation ». Les plus grandes des GAFA ou autres, mais ce n'est pas réservé qu'aux GAFA, utilisent cette stratégie-là. C'est « j'ai une vision du monde, j'ai une vision des choses, j'ai une maîtrise à peu près la technologie, mais je vais aller faire mes courses à l'extérieur ». Et je vais piocher des innovations à droite, à gauche, que je vais combiner entre elles et en faire quelque chose d'une plus grande ampleur. En gros, j'achète quelque chose qui vaut 1 plus 1 plus 1, mais mis ensemble, ça fait 300 000, pas simplement 3. Parce que moi, je lui donne une autre dimension. Donc, le principe d'open innovation, c'est de se dire, je n'ai pas toute la connaissance dans l'entreprise. Est-ce que je ne pourrais pas aller la chercher à l'extérieur ? Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut être, je sais ce que je cherche, mais je ne le trouve pas à l'intérieur. Donc, je vais identifier des PME ou des chercheurs ou des experts et je vais acheter un brevet, acheter une entreprise, acheter une technologie par la croissance externe ou des choses comme ça. Donc, c'est une première manière de faire de l'open innovation. Puis l'autre, c'est d'interroger le monde extérieur. Donc là, on voit apparaître souvent des challenges, des hackathons, des concours dans lesquels on va lancer un concours. Les gens vont y répondre et puis ben, on va récompenser ou intégrer les équipes à nos équipes de conception à l'extérieur. Donc, deux manières d'aller chercher la solution à l'extérieur. Mais encore une fois, vous voyez que si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne trouveras rien. Donc, l'open innovation, elle est utile que si en amont, on sait pourquoi on veut innover et ce qu'on cherche.
Oui, alors tu l'as dit tout à l'heure, hein, selon toi, l'innovation, ça doit être pensé comme un chemin, hein, autant qu'un résultat à atteindre. Du coup, c'est vraiment une histoire d'état d'esprit, l'innovation.
Oui, c'est là où il y a une corrélation avec l'époque de la transformation digitale. Je ne pense pas que la transformation digitale soit réservée qu'au digital native. C'est une erreur de penser ça. C'est une époque qui remet en avant des fondamentaux qu'on a oubliés, qu'on a exclus du monde de l'entreprise, voire même de notre société. Hein. Le fameux test and learn, le droit à l'erreur. Enfin, je veux dire, De Vinci le disait déjà. Et aujourd'hui, on le redécouvre dans la transformation digitale. Donc, on voit bien qu'on est en train juste de réhabiliter des grands principes d'état d'esprit qu'on a oubliés. Voilà. Donc, oui, je pense que l'innovation, c'est avant tout un état d'esprit, mais ce n'est pas qu'un état d'esprit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que derrière, une fois qu'on a compris les mécanismes et comment on doit créer le chemin, ça n'empêche pas d'avoir une organisation, des outils qui permettent de le piloter. Pourquoi ? Parce que si ce chemin, je vais être en capacité de vouloir le reproduire et d'être sans cesse dans ce cycle d'innovation, que ce soit à titre individuel ou collectif dans l'entreprise, il faut que je puisse en faire un bilan, une valorisation. Donc, trop souvent, on a sur le marché, j'aime pas dire ça, mais sur le marché des consultants en innovation, on a ceux qui sont très revendicatifs sur le fait que c'est qu'un chemin, ou d'autres, c'est qu'un processus. Ben non, en fait, c'est les deux. D'accord ? C'est que si on a un chemin, mais qu'on n'est pas capable de le mesurer, à un moment donné, on va s'y perdre sur le chemin. Hein, les principes d'effectuation, ils sont utiles, mais si à un moment donné, on est capable de mesurer les choses, d'ailleurs, c'est un des piliers de la transformation digitale, c'est piloté par la data. Ce n'est pas parce qu'on pense un chemin et qu'on laisse dans ce chemin la possibilité de saisir des opportunités, la fameuse sérendipité, hein, cette part de hasard, qu'à un moment donné, on ne doit pas aussi quand même piloter les choses. Sinon, on va se perdre. C'est toute la différence avec l'oisiveté, entre guillemets. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un changement d'état d'esprit, oui. Et puis, grâce aux data, grâce notamment au digital, c'est aussi un super moyen quand même de piloter. C'est-à-dire qu'on peut laisser de la liberté tout en pilotant et orientant, en fait.
Ouais, à ce sujet, on a parfois l'impression que le plus facile, c'est finalement presque les idées. Après, ce qui est le plus difficile, c'est de les mettre en action. Hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et puis, d'avoir un vrai ROI sur son innovation. Comment est-ce qu'on peut faire pour que l'innovation, elle soit vraiment utile à l'entreprise ?
Tu parlais de ROI, la clé, elle est là. D'ailleurs, à l'APM, c'est la première question que je pose dans mes expertises. Hein, c'est cette logique de qu'est-ce qu'on attend de l'innovation ? Et on se rend compte que si on attend que le résultat, en innovation, tout le monde est d'accord, il y a forcément droit à l'erreur et beaucoup d'échecs. Imaginez-vous que vous misiez beaucoup d'argent, de temps sur l'obtention d'un résultat. Vous ne l'obtenez pas. Votre ROI, il est nul. Par contre, si vous avez pensé l'innovation comme un objectif d'atteindre ce résultat, mais que sur ce chemin, vous savez que vous allez apprendre des choses, découvrir des gens, créer des passerelles entre les silos de votre entreprise, rencontrer d'autres gens à l'extérieur, même si vous n'atteignez pas le résultat final, vous avez quand même gagné quelque chose. Déjà, votre ROI, il n'est pas nul. Vous avez gagné en connaissance, vous avez gagné en agilité ou en engagement. Donc, derrière cette logique de rentabilité, hein, on va parler franchement, on voit quel est le gain pour l'entreprise. Après, je reviendrai au tout début de notre échange. Le gain direct, c'est de nous obliger à être matchés, en tout cas synchronisés avec les attentes du marché. Ça, c'est le premier point. Deux, c'est nous obliger à être efficients dans notre fonctionnement. Et trois, c'est nous obliger à prendre soin du capital humain qui est la source de résilience indispensable pour survivre et s'adapter.
Oui, alors je le disais tout à l'heure, Arnaud, tu es la tête d'une start-up hein, qui propose une plateforme numérique de co-innovation et d'intrapreneuriat qui vient de changer de nom, qui s'appelle Bloomup. Bloomup, ouais, excuse-moi. Est-ce que tu peux nous dire deux mots, s'il te plaît, sur cette solution Bloomup ?
Eh bien, Bloomup, c'est Bloom, hein, éclore, floraison. Donc, c'est en lien avec justement les racines du mot innover, faire bourgeonner. Et la théorie est de dire qu'aujourd'hui, innover, c'est travailler sur... pour nous, principalement sur le capital humain et lui donner les moyens non seulement d'exprimer des idées qui résolvent des problèmes d'organisation de fonctionnement en interne ou des idées qui proposent des nouvelles solutions, donc l'innovation participative, mais d'aller plus loin et de leur dire ces idées, il faut que vous les portiez ensemble. Donc le digital a ça d'assez génial, c'est qu'on peut très rapidement pousser quelqu'un à exprimer une idée. Cette personne a créé une communauté autour d'elle et plutôt que d'attendre du manager ou d'autres personnes de transformer son idée en solution, on va la pousser grâce au digital et à quelques algorithmes qui vont lui suggérer d'inviter telle personne ou qui vont lui suggérer de regarder tel tutoriel, d'avancer elle-même son projet et d'aller vers la logique d'intrapreneuriat. Ce qui est très intéressant, le passage de l'innovation à l'intrapreneuriat, c'est l'idée de dire on va continuer à faire exprimer et participer le maximum de salariés. Par contre, on va les responsabiliser sur la transformation des idées en solution pour plusieurs choses. Un, le fait qu'on va découvrir les métiers qui sont autour de nous dans l'entreprise, parce que je ne peux pas transformer tout seul la solution. Deux, ça va créer de l'agitation, du mouvement dans l'entreprise, donc créer de l'agilité, de l'engagement. Ça va recréer du lien humain qu'on va utiliser en innovation, mais pas simplement, qui va être très utile au quotidien dans l'entreprise. Et dans l'intrapreneuriat, on est plus sur une logique de co-opétition. C'est-à-dire qu'à la fin, ça marche ou ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas, ce n'est pas la faute du méchant manager ou du méchant patron. C'est qu'on a suivi un processus et on va se rendre compte par nous-mêmes qu'on peut le porter ou pas le porter par l'entreprise. Donc, ça apaise même les relations avec l'entreprise. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette plateforme étant digitalisée, ça ne perturbe pas ce qu'on appelle, nous, les activités d'exploitation de l'entreprise. C'est-à-dire que grâce à ça, l'entreprise n'a plus à choisir entre le principe de libération de l'entreprise à tous les niveaux et de l'autre côté, la maîtrise parfaite de mes coûts pour garantir ma performance au quotidien. Elle peut proposer aux salariés de s'impliquer dans ce qu'on appelle les activités d'exploitation au réel, mais lui proposer d'avoir une autre existence sociale dans l'entreprise à travers cet espace digital dans lequel il peut avoir d'autres missions. Mais ça ne perturbe pas l'autre.
Arnaud, merci beaucoup pour cet échange. Alors, comme tu le sais, l'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Quel conseil est-ce que tu peux donner aux entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui ?
C'est de donner la parole à ses salariés, en fait. Hein. C'est de créer les conditions dans lesquelles on va pouvoir révéler cette intelligence collective. Je ne supporte plus d'entendre parler les pessimistes sur le fait que la transformation digitale de notre société va mettre au banc 80% de nos salariés, que seuls 20% seraient utiles à nos entreprises. Moi, je fais l'hypothèse que ceux qui sont déjà dans votre entreprise et les 80% autres abandonnés par ces pessimistes sont les talents de demain. Tous vos salariés sont une fonction et un poste, mais sont aussi des talents cachés. Créez les conditions dans lesquelles ils peuvent exprimer leurs talents, voire les révéler, et dans les conditions dans lesquelles ils peuvent s'engager dans votre entreprise. Il faut leur donner la possibilité de se réapproprier la vie de l'entreprise, de la vivre autrement, sans perturber. Donc, ayez confiance en vos salariés. Et si j'avais des premières étapes à leur donner, il faut y aller modestement. Il faut être très clair. On peut lire tous les bouquins que l'on souhaite, voir tous les experts que l'on veut. À un moment donné, avant d'arriver à ce chemin-là, pourquoi pas expérimenter et surtout vous donner le droit à l'erreur, test and learn. La plupart des démarches ou des plateformes que l'on met en place, ce qui surprend beaucoup et qui favorise l'adhésion des salariés, c'est qu'on leur dit voilà, on va mettre en place une plateforme ou pas, hein, un système dans lequel on va pouvoir tous participer au développement de la performance globale de l'entreprise. Mais par rapport aux règles de vie, on va vous impliquer. Donc, on implique les salariés dans la définition des règles. Et puis, ben, on va se donner 3 mois. Et dans 3 mois, on fait le bilan. Puis peut-être qu'on sera planté, il faudra modifier les choses. Rien que d'annoncer le fait que moi, en tant que dirigeant, j'ai envie de leur donner la parole. Je vais co-construire le moyen de leur donner la parole. Mais je fais aussi l'hypothèse qu'on sera peut-être planté, qu'il faudra corriger. On a déjà changé le rapport, on va dire, en termes d'état d'esprit. Et on arrive à engager les salariés. Donc, faites conscience. Vous avez des talents en puissance dans votre entreprise. Donnez-leur le moyen de les exprimer, les développer. Ça sera favorable à leur bien-être et ça sera favorable au bien-être de l'entreprise aussi.
Arnaud Groff, merci beaucoup.
Merci beaucoup.